Accent d'Europe, Catherine Roland. Bonjour à tous, bienvenue pour retrouver les meilleurs moments d'accent. Sometimes I feel like a plastic bag called a tree. Of no further use to someone left to blow when the bug streets. And up here I can see there's no end in sight. C'est une des grandes sources de pollution de la planète, les sacs en plastique. Et depuis quelques années, la plupart des pays européens tentent d'en limiter l'utilisation, voire de les interdire totalement. C'est le cas de la France, de l'Italie ou de l'Allemagne. C'est au tour des Grecs de payer les sacs plastiques dans les supermarchés. Une directive européenne vise à ramener la consommation de ces sacs à 90 par Européen et par an. Les Grecs sont encore très loin d'atteindre ces chiffres, mais cette première mesure a reçu un accueil plutôt positif. Charlotte Stiévenard.
Dans ce supermarché du centre-ville d'Athènes, certains viennent avec leur propre sac, d'autres préfèrent en acheter un, 6 centimes pièce. La plupart réagissent comme ce client âgé de 40 ans.
C'est très bien car ça évite d'utiliser beaucoup trop de sacs plastiques. Moi j'ai acheté mes propres sacs, bon là je ne les ai pas avec moi, mais d'habitude je les emmène pour faire mes courses.
Vicky, une habituée du supermarché, ne prend pas de sac plastique. Elle glisse ses produits dans son sac en tissu, comme elle le fait depuis longtemps. Elle a tout de même une critique à faire concernant la nouvelle mesure.
J'approuve ces mesures environnementales, mais je ne sais même pas si nous avons un système de recyclage qui fonctionne, alors que ça devrait être la première mesure à prendre. Cette taxe, c'est bien, mais comme ailleurs en Europe, les prix des sacs dans les supermarchés sont trop bas. Alors peut-être qu'on aurait dû faire autrement.
Pour beaucoup, c'est un bon début, mais il faudrait faire plus. Sur les marchés ou dans les kiosques, les sacs en plastique restent gratuits. Pour Yanis, un vendeur de tomates, ça ne servirait à rien de toute façon. Selon lui, c'est une demi-mesure.
Tout ce qu'on utilise est en plastique. La toile que j'utilise sur le stand est en plastique. Les voitures, tout. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il faut que tout le plastique soit aboli. Il faut changer de mode de vie.
Au Fonds mondial pour la nature, on explique que jusqu'ici, les Grecs consommaient entre 240 et 370 sacs plastiques par an, un des chiffres les plus élevés en Europe, selon Achilleas Plitharas de l'organisation non gouvernementale. Pour lui, il fallait réagir, tout particulièrement en Grèce.
On ne peut plus donner de sacs plastiques gratuitement. Nous en utilisons beaucoup trop. Cela a un impact sur le système de gestion des déchets et encore plus sur l'environnement, en particulier l'environnement marin. Nous ne devons pas oublier que nous sommes un pays maritime. Nous devons protéger la mer Égée, la mer Ionienne et, de façon générale, toutes nos mers et nos espèces maritimes menacées par les sacs plastiques.
Achilleas Plitharas est persuadé que faire payer les sacs en plastique aidera au changement des mentalités petit à petit, comme ça a été le cas en France avant une interdiction totale.
Personne ne devrait le voir comme une nouvelle taxe sur le dos des ménages grecs. Ailleurs, comme aux Pays-Bas, les sacs plastiques coûtent 25 cents, 22 cents en Irlande. C'est beaucoup plus qu'en Grèce. Il y a toujours le risque qu'une mesure environnementale soit perçue par les citoyens comme une taxe qui finit dans le trou sans fin de la dette publique. C'est pourquoi le rôle du ministère de l'Environnement est important. Il faut que l'argent récolté grâce aux sacs plastiques soit utilisé pour informer les citoyens et pour la distribution de sacs en toile ou de carton, par exemple.
Le ministère de l'Environnement compte effectivement utiliser cette taxe pour écouler des sacs réutilisables par le biais des mairies. Il n'exclut pas une interdiction totale en 2020, date à laquelle ce premier programme aura été évalué.
Au Royaume-Uni, le gouvernement va même plus loin que les Grecs. Il s'est lancé dans la chasse au tout plastique. La première ministre Theresa May a dévoilé le 11 janvier dernier un plan environnement pour les 25 prochaines années. 1,5 million de tonnes de plastique sont jetées chaque année dans le Royaume, dont plus de la moitié par les supermarchés. Marie Billon nous appelle de Londres.
Cela fait bientôt 3 ans qu'en Angleterre, le sac en plastique gratuit a disparu des grandes surfaces. Il faut désormais payer au moins 6 centimes d'euros minimum pour en avoir un. Et cette initiative est efficace puisque l'usage du plastic bag a été réduit de 90%. Mais pour l'instant, seules les entreprises employant 250 employés ou plus sont soumises à cette législation. Le ministre de l'Environnement va entamer une consultation en vue d'étendre la mesure à tous les commerces. Autre cible, les emballages utilisés dans les magasins. Le gouvernement aimerait voir des allées plastique free, sans emballage plastique d'ici peu, car 800 000 tonnes de déchets plastiques sont créés chaque année par les grandes surfaces. Pour l'instant, seule une chaîne, Iceland, s'y est engagée. La plupart gardent en fait secret la quantité qu'ils utilisent, allant même jusqu'à signer des accords de confidentialité avec les entreprises de recyclage, explique le quotidien The Guardian. Seules 2 chaînes ont accepté de dévoiler les chiffres, notamment la 6e plus grande, Co-op. Elle a réduit ses emballages plastiques de 44% en 10 ans jusqu'en 2016, passant de plus de 78 000 tonnes à 43 000. Un chiffre atteint par des petits détails, dit le magasin, en retirant le plastique de l'ouverture des boîtes de mouchoirs ou la plaque de polystyrène sous les pizzas, par exemple. Mais les magasins ont peu de motivation pour opérer ces changements, car au Royaume-Uni, ce sont les contribuables qui paient la majorité du budget recyclage. The Guardian estime que les grandes chaînes ne paient qu'environ 20 euros par tonne recyclée, contre 150 dans certains pays européens. Les représentants de Co-op souhaiteraient voir instaurer un système de bonus-malus, les entreprises devant payer plus ou moins en fonction de la matière utilisée dans leurs emballages. Ce n'est pas prévu dans le programme dévoilé début janvier par le gouvernement, même s'il entend débloquer des fonds pour encourager l'innovation et la création de nouvelles matières pour remplacer le plastique.
Lorsque l'on vit dans un petit pays de 5,5 millions d'habitants et que l'on parle une langue rare et difficile comme le finnois, quoi de plus normal que d'apprendre l'anglais et de le parler plutôt bien? Sauf que ces dernières années, la langue de Shakespeare s'impose de plus en plus, notamment dans l'enseignement, au détriment d'autres langues étrangères, ce dont s'inquiètent certains enseignants finlandais. Dans le même temps, des municipalités veulent aller encore plus loin et instaurent l'anglais carrément comme langue de travail. Le reportage de Laurent Berthaud commence dans un groupe scolaire au nord de Helsinki.
C'est l'heure d'entrer en cours de français pour ces élèves d'une douzaine d'années. Cela fait 4 ans qu'ils l'étudient et la leçon du jour porte entre autres sur les verbes du deuxième groupe.
Nous choisissons.
Vous choisissez.
Vous choisissez.
Ils choisissent.
Ils choisissent.
Dans cet établissement, pas moins de 4 professeurs de français ont choisi d'enseigner les subtilités de la langue. Une situation tout à fait exceptionnelle, comme le souligne l'enseignante Sanna Karpanen, également présidente de la Fédération des professeurs de langue vivante, Soukol.
Quand la Finlande est devenue membre de l'Union européenne, 25% des jeunes ou d'élèves étudiaient l'anglais et une deuxième langue européenne, soit l'allemand, soit le français. Et maintenant, c'est 6% ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment une chute assez violente. Et pourquoi on est arrivé là? En Finlande, il y a une tendance de penser que l'anglais suffit partout dans le monde et peut-être les langues ne sont plus considérées très importantes.
La cathédrale de Helsinki est plus grande que...
Résultat, en dehors des grandes villes comme Helsinki, Tampere ou Turku, le français ou l'allemand sont désormais considérés comme des langues rares. Une évolution due également au système éducatif finlandais, comme le rappelle Jorma Kaupinen de l'Agence nationale finlandaise pour l'éducation.
La Finlande est un pays bilingue, qui a donc 2 langues officielles, le finnois et le suédois. À l'école, tout le monde doit apprendre ces 2 langues. Les élèves doivent aussi apprendre une langue étrangère obligatoire. Et la plupart du temps, c'est l'anglais, à 97%. La décision en revient aux municipalités, car ce sont elles qui financent les écoles. Si elles le veulent, elles peuvent aussi proposer des cours d'allemand, de français ou de russe.
Tout fini à quelle heure?
C'est parce qu'elles sont confrontées à des arbitrages budgétaires et sous la pression des parents que les municipalités donnent la primeur aux cours d'anglais. Une décision lourde de conséquences pour l'avenir du pays, estime Sanna Karpanen.
Les industries qui veulent justement exporter des produits disent déjà qu'on voit qu'il n'y a pas des gens qui puissent travailler dans d'autres langues. Et ça, c'est bien évidemment, ça c'est assez grave. Donc, c'est une question économique. Je pense aussi que c'est une question de mentalité. Donc, si on est trop enfermé, ça ne peut pas être bien. Parce que le monde, ce n'est pas seulement un monde anglais ou un monde anglophone. Et quand on étudie une langue, c'est toujours une fenêtre, une porte vers une autre culture ou une autre façon de penser. Et si on perd ça, on perd beaucoup de choses.
Juste à l'ouest d'Helsinki, la ville d'Espoo n'a, elle, aucun état d'âme à miser à fond sur l'anglais. Seconde ville de Finlande, avec pas loin de 300 000 habitants, elle abrite les sièges de nombreuses entreprises internationales où l'anglais est la langue de travail. Ce qui, en 2017, a incité la municipalité à faire de l'anglais la troisième langue de la ville. Markku Markkula, membre de l'équipe municipale.
De plus en plus de gens vivant ou travaillant ici sont originaires de toute l'Europe, du monde entier même. Dans nos écoles, nous avons recensé plus de 100 nationalités différentes. On parle l'anglais un peu partout, dans les entreprises, mais aussi à l'accueil des différentes administrations et services municipaux, dans les centres de loisirs. C'est la raison pour laquelle l'anglais a été choisi comme troisième langue. Une langue de travail, car la Constitution n'autorise pas de troisième langue officielle.
Véritable symbole de cette politique, l'inauguration il y a un peu plus de deux ans de l'école internationale d'Espoo, où tous les cours sont donnés en anglais. Ce jour-là, en cours de menuiserie, je croise Ada, Emma et Iris, une Hongroise et deux Finlandaises âgées de 10 ans, pardon, 11 ans depuis quelques jours pour Iris.
Je parle anglais depuis le jardin d'enfants. Même si je suis née en Finlande et que mes parents sont finlandais, j'ai donc appris à parler anglais couramment. Et c'est pour ça que je suis dans cette école anglaise.
Ok, numéro 2B. Que vont les garçons mettre dans leur bagage? So what are the boys going to pack in their suit?
Dans cet établissement, la majorité des parents d'élèves vient de l'étranger, la garantie d'une ouverture sur le monde pour tous les enfants, selon la principale Anne-Marie Rappeau.
Nous cherchons à donner une dimension internationale à notre enseignement. Nous célébrons la plupart des fêtes du monde entier. Nous recevons beaucoup d'invités qui viennent nous parler de leur pays, de leurs traditions et de leurs origines. Cela nous permet de donner une autre dimension à nos propres vies. Peut-être que ce qui nous distingue, ce n'est pas seulement d'enseigner en anglais, mais bien de conserver cet état d'esprit ouvert et globalisé qu'ont les familles qui ont vécu à l'étranger.
La municipalité d'Espoo veut d'ailleurs aller plus loin. Les élèves de toutes les écoles primaires de la ville auront bientôt une heure d'anglais obligatoire par semaine. Autre ambition, que tous les services publics de la ville soient à même d'accueillir les visiteurs en anglais, y compris dans les hôpitaux. Et cela inquiète beaucoup Mariut McLean. Cette infirmière représente le syndicat du personnel médical Tehu.
All the staff doesn't speak English.
Déjà, tous les personnels médicaux ne parlent pas anglais. Dans la vie quotidienne ou comme touriste, oui, mais c'est autre chose de maîtriser le langage médical. C'est pas comme aller passer ses vacances à Majorque. Le second souci, c'est la sécurité du patient. Une infirmière qui parle mal anglais avec un patient qui ne le maîtrise pas très bien, ça peut conduire à des accidents, s'il comprend mal, par exemple, comment prendre ses médicaments. Enfin, il y a la question de la qualification. L'employeur doit mettre en place des cours, des examens, et la ville d'Espoo doit mieux payer les personnels qui auront été qualifiés.
Cette syndicaliste insiste également sur la nécessité de conserver des traducteurs dans les hôpitaux, alors que la Finlande accueille elle aussi son lot de réfugiés qui tous, loin de là, ne sont pas anglophones.
Laetitia Farine nous invite à venir contempler certains murs de Barcelone sur lesquels s'expriment les artistes de street art. Chaque jour, l'organisation Barcelona Street Style Tour propose des excursions dans la vieille ville. Visite.
Un Dark Vador affublé de paillettes, des poissons colorés, une sucette noire au regard enfantin, Une glace déjà entamée au sourire moqueur, des personnages féminins aux cheveux bleus ou encore un petit bonhomme en surpoids, voici le genre d'œuvre que l'on retrouve sur les murs de Barcelone, une ville où le street art est surtout là pour faire sourire les passants. C'est ce qu'explique la guide Chloé Lanier, 27 ans.
À la différence des villes comme à Londres ou Berlin avec beaucoup de messages sociaux et politiques derrière, Barcelone c'est un style très positif, très coloré, naïf, un peu enfantin. Les artistes doivent s'adapter à leur environnement. Ici, on était en plein centre-ville, dans les petites rues. Beaucoup de monde, beaucoup de policiers, beaucoup de passages. Donc beaucoup de petites choses à coller rapidement. Beaucoup de paste-up, de papier collé, beaucoup d'installations.
Parmi ces installations, on retrouve celle de l'artiste Melata qui accroche des canettes au mur sur lesquelles il écrit des messages d'amour ou d'espoir. L'une des touristes, Magali Echen, a participé au tour et elle a été séduite par le style particulier de Barcelone.
J'avais entendu dire que Barcelone était une ville riche en street art, donc c'est pour ça que j'avais envie de venir voir ce que c'était. Et bien, je trouvais ça intéressant de voir autre chose, effectivement, de voir un petit style plus rigolo, ludique. Je pense qu'on va lever les yeux pour regarder un peu plus haut sur les murs ce qu'il y a et essayer de repérer ce qu'on connaît déjà ou en trouver d'autres.
Si certaines œuvres perdurent, beaucoup sont recouvertes d'une couche de peinture par la mairie ou sont remplacées par d'autres œuvres. Trouver des pièces de street art dans les rues de Barcelone s'apparente donc à une chasse au trésor pour les néophytes. Ils peuvent tout de même s'aider d'Instagram où de nombreux artistes profitent de l'anonymat que permet la plateforme pour poster des photographies de leurs œuvres.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors vous mettez à l'honneur un duo suédois, deux sœurs qui sortent leur quatrième album.
Les sœurs Johanna et Clara Söderberg étaient encore adolescentes quand elles ont formé le groupe This is the Kit, voilà 10 ans, à Stockholm. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont fait du chemin depuis, au sens presque littéral, puisque dès leur deuxième album en 2012, First Aid Kit ont pris l'habitude d'enregistrer leurs chansons aux États-Unis, berceau de la country et du folk, cette musique qui a totalement sculpté l'inspiration des deux Suédoises. C'est à nouveau flagrant sur Ruins, quatrième album qu'elles ont choisi d'enregistrer avec l'excellent producteur Tucker Martin dans son studio de Portland. Leurs harmonies vocales et leurs mélodies mélancoliques y font des merveilles.
Ouais. Of a light in you, you could have been mine. Your mother, she's an actress, and we're all putting on a play. Give some conviction, pretend it's all real. Try to ignore how sad it all feels. Yes, try not to break her heart.
Vincent Théval dès demain avec sa nouvelle sélection. En attendant, merci de votre fidélité.